France Inter.
It's morning edition from NPR News.
NCT Sandinga Housey.
Haliam Radio Rosana Piparis.
Produce gente en la radio.
Son pas changé de radio.
France Inter. Le 18-20. Fabienne Sintès.
Un jour dans le monde, c'est un jour en Iran, bien sûr, ce soir.
Moments ago, Israel launched Operation Rising Lion, a targeted military operation to roll back the Iranian threat.
Évidemment, c'est Benjamin Netanyahou qui parle. C'était vendredi matin, il y a quelques instants, Israël a lancé l'opération Rising Lion, une opération militaire ciblée visant à repousser la menace iranienne pesant sur la survie même d'Israël. Cette opération continuera autant de jours que nécessaire pour éliminer cette menace. Bonsoir Joshua Jerka.
Bonsoir.
Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes l'ambassadeur d'Israël en France. Est-ce que c'est une nouvelle guerre qui a commencé, monsieur l'ambassadeur, ce vendredi, ou une nouvelle offensive militaire? Les mots ont un sens. Est-ce qu'on dit Israël est en guerre?
D'abord, c'est une opération qui fait partie d'une large guerre dans laquelle nous sommes avec les Iraniens depuis assez longtemps. Vous savez, les Iraniens ont tiré sur nous 330 missiles en avril dernier, et ensuite 180 missiles en octobre. Alors donc, dire que c'est une nouvelle guerre, non. Nous sommes déjà
Donc vous étiez déjà en guerre?
Nous sommes déjà en guerre avec les Iraniens. C'est une opération qui a pour but de nous débarrasser, de débarrasser le Moyen-Orient, de la menace nucléaire iranienne et de la menace de ces missiles balistiques.
Alors, deux choses. Depuis vendredi, les missiles israéliens ont touché plusieurs sites iraniens, notamment celui de Natanz, qui est l'un des principaux sites d'enrichissement nucléaire. Pas seulement, vous avez détruit aussi des lanceurs. Un tiers, c'est ce que disait l'armée israélienne il y a quelques heures. Israël a aussi visé et tué un certain nombre de spécialistes nucléaires, notamment d'ailleurs l'un de ceux qui était parmi les négociateurs et qui parlait avec les Américains. Il y a aussi le chef du gardien de la Révolution qui est mort, mais l'essentiel du programme nucléaire, on sait qu'il est sous terre très profondément, notamment à Fordo. Est-ce que vous avez les moyens d'atteindre ces installations qui sont très profondes? Est-ce que c'est votre but d'éradiquer intégralement toutes les installations nucléaires iraniennes?
Alors, je vais répondre à la seconde question. Oui, premièrement, c'est notre but d'éradiquer totalement tout le programme nucléaire militaire iranien. Donc, Fordo fait partie de cela. La question de nos capacités, je ne vais pas rentrer dans les détails, clairement, mais seulement ce que je veux dire, c'est le suivant. Israël n'aurait pas commencé cette opération si nous n'étions pas sûrs d'y aboutir en réussissant, sans l'aide d'autres pays.
Donc ça veut dire typiquement sur Fordo, pour dire les choses clairement, puisqu'on sait que c'est très profond sous terre, on sait que seuls les Américains ont les bombes anti-bunkers nécessaires, les avions pour les transporter. Ça veut dire que pour des sites comme Fordo, vous avez besoin des Américains et ce soutien, vous l'avez.
Non, c'est pas ce que j'ai dit. J'ai bien ajouté à la fin de ce que j'ai dit, seul. Donc, les opérations offensives se font seulement par Israël. Israël n'aurait pas commencé, ne serait pas rentré, n'aurait pas initié cette opération si elle n'était pas sûre de pouvoir bien la terminer. Seul, sans l'aide des Américains. Les Américains nous aident dans la défense. Dans l'offensive, nous sommes seuls.
Dans l'offensive, vous êtes seul, et d'ailleurs Marco Rubio a parlé d'une attaque unilatérale, donc une initiative effectivement israélienne. C'était donc à la veille de la dernière réunion de négociation. Est-ce que vous avez coupé l'herbe sous le pied des Américains
non,
en Israël, monsieur l'ambassadeur?
Pas du tout. Vous savez, il y a une énorme différence entre ce qui est dit en public et ce qui est dit dans des salles fermées, dans les bureaux et dans des discussions privées. Dans les affaires internationales. Non, pas du tout. Israël et les États-Unis sont deux pays qui sont très proches, qui travaillent très prochement ensemble. Et nous parlons, d'ailleurs le président américain en a parlé d'une façon assez très claire, qu'il savait à l'avance ce qui allait se passer et que sans y participer, il savait, donc il y avait eu des discussions assez intenses entre nos deux leaders. Et que le Premier ministre en avait parlé assez longuement avec le Président et s'était mis d'accord.
Donc les Américains ont bien donné un feu vert, y compris sur l'ensemble de l'opération. On a entendu Benjamin Netanyahou s'adressant aux Iraniens, dire « c'est le moment de vous débarrasser de ce régime ». Est-ce que le but de la guerre, c'est de détruire intégralement la capacité nucléaire, vous nous l'avez dit, mais aussi de supprimer le régime iranien? Ce que je veux dire, c'est « est-ce que c'est « et » ou « est-ce que c'est « ou » ?» Ou l'un ou l'autre, ou l'un et l'autre ?
Ni l'un ni l'autre dans les deux options que vous avez données. Ce n'est pas un but officiel de l'opération. Les buts, comme ils sont définis, c'est ce que j'ai défini.
Donc c'est la capacité nucléaire iranienne, ça ?
Nucléaire et balistique.
Okay,
d'accord ?
Balistique.
C'est deux capacités qui peuvent nous, en mettre en danger, sinon la sécurité d'Israël, mais peut-être même l'existence quand on parle du nucléaire. Par contre, la question du régime ne fait pas partie des buts de l'opération. Mais si, suite à l'opération, le régime venait à tomber, ce serait quelque chose que nous applaudirions.
Est-ce qu'il existe un risque inverse, monsieur l'ambassadeur, c'est-à-dire que les Iraniens se rapprochent au fond de leur gouvernement, même s'ils le détestent, au nom du patriotisme, au nom d'un nationalisme iranien, parce que des civils sont tués?
Nous faisons très attention de ne pas justement cibler les civils, bien au contraire.
Oui, il y en a eu déjà, il y en aura, j'imagine.
C'est une guerre, et dans une guerre, malheureusement, il y a des dommages collatéraux. Et c'est très triste, et nous essayons de faire en sorte qu'il n'y en ait pas. Vous savez, le rapprochement possible de la population iranienne avec le régime, je m'en doute, parce qu'il y a une haine très profonde.
Vous en doutez, vous dites.
Oui, je m'en doute, parce qu'il y a une haine très profonde des Iraniens envers le régime. C'est un régime qui les tue, qui tue leurs femmes, qui ne les laisse pas vivre en paix, et qui ne laisse pas faire ce qu'ils veulent. Et donc les Iraniens, nous avons fait des sondages à ce sujet, 80% des Iraniens voudraient voir ce régime disparaître. Une minorité de ces 80% sont beaucoup plus actifs, seraient prêts à prendre une partie beaucoup plus active pour cela, et d'autres aimeraient simplement que ça arrive. Mais je ne vois pas comment il pourrait y avoir, disons, un rapprochement, comme vous dites. Mais en plus, nous faisons très attention, et nous essayons de faire très attention, de ne pas toucher les populations civiles.
C'est un pari que vous faites, effectivement, que la population iranienne se retournera. Pour qu'une population se retourne, il faut aussi qu'il y ait un plan B derrière, et on sait bien ce que c'est quand il n'y a pas de plan B. On l'a vu en Afghanistan, on l'a vu en Irak, on l'a vu en Libye, y compris pour vous. La situation peut aussi être pire. On a l'impression, c'est le cas par exemple du chef du gardien de la Révolution que vous avez tué, ils sont remplaçables immédiatement derrière. C'est aussi ça le régime iranien, c'est l'un qui remplace l'autre.
Dire qu'ils sont remplaçables, théoriquement c'est vrai, mais regardez par exemple quand Soleimani, qui était le chef de la force Quds, qui est la force d'élite des gardes de la Révolution, quand il a été éliminé par les Américains, son remplaçant était quelqu'un de très gris qui n'a jamais réussi à prendre son poste et à prendre avoir le même statut qu'avait son prédécesseur. Et la même chose, par exemple, regardez avec le chef d'état-major qui a été éliminé la semaine vendredi, Bagheri, qui était quelqu'un qui était très proche du guide suprême, et c'est la raison pour laquelle, justement, depuis 1916, ça fait 9 ans déjà, qu'il était le chef d'état-major. Alors, c'est vrai qu'ils sont remplaçables, on met immédiatement quelqu'un après l'autre, mais disons, nous savons que le guide suprême a des difficultés à faire confiance aux différentes personnalités.
Et en parlant de gens qui sont remplaçables, vous avez déjà éliminé des ingénieurs nucléaires, mais on sait bien qu'on peut aussi remplacer des ingénieurs nucléaires. Est-ce qu'on n'est pas en train de faire tout simplement reculer un programme nucléaire, mais sans jamais le détruire? Au fond, à partir du moment où on sait le faire une fois, on saura le refaire de toute façon.
Ce que nous avons fait pendant de longues années, parce qu'il y a des négociations, la diplomatie a essayé de travailler depuis 2002, plus exactement, jusqu'à présent, pour essayer d'arrêter le programme nucléaire iranien, et a échoué. Alors, ce que nous avions fait pendant cette période, c'est justement d'essayer de ralentir justement le programme, et nous avons réussi à le ralentir par différents efforts. Là, maintenant, c'est différent. Ce n'est pas ralentir le programme, c'est l'arrêter complètement, mettre un stop complet à ce programme et ne pas lui permettre de se relever.
L'Iran riposte, monsieur l'ambassadeur. Vous imaginez évidemment que l'Iran allait riposter. Ça pouvait difficilement se passer différemment. Aviez-vous anticipé sur une riposte qui obligerait la population de Tel Aviv à gagner les abris, comme c'est le cas en ce moment? Parce que ça aussi, c'est un risque à courir.
Pour être franc, nous pensions que la riposte serait pire que ce qu'elle a été.
Elle n'est pas finie.
Elle n'est pas finie, clairement. Mais nous craignons qu'elle serait bien pire que ce qu'elle a été. Bon, nous sommes au milieu, je dirais même au début de cette opération. Elle va durer encore un certain temps. Et donc les Iraniens ont encore la capacité de tirer des missiles contre notre population. Et ils le font. Mais nous savons, je veux dire nous les Israéliens, nous savons que l'alternative aurait été pire. À permettre aux Iraniens d'avoir la capacité de nous détruire n'était pas vraiment une alternative pour
mais
nous.
Mais bien pire, M. Zarqa, ça veut dire que les pertes israéliennes, elles sont considérées comme acceptables jusqu'à un certain point. C'est ça que ça veut dire, en fait.
Aucune perte des deux côtés, aucune perte civile, qu'elle soit chez nous, en Israël, ou qu'elle soit chez les Iraniens, n'est acceptable. Ce n'est pas une question d'acceptable. Vous m'avez posé la question, est-ce que nous nous y attendions? Oui, nous nous y attendions. Est-ce que c'est acceptable? Non, c'est malheureux.
Y compris pour la population israélienne,
c'est ça? Y compris, bien sûr, pour la population israélienne et pour la population iranienne.
Vous disiez, ça durera un certain temps.
Oui.
Est-ce qu'on peut évaluer le certain temps, honnêtement? Est-ce qu'on peut en avoir
une idée? Au début des opérations, on parlait d'un petit nombre de semaines.
Petit nombre de semaines?
Oui.
Donc ça peut aussi, on peut parler de mois au moment où on...
Ça m'étonnerait que ce soit plus que cela.
Qu'est-ce qui fera que ça finira par s'arrêter? Est-ce que c'est simplement...
Les réussites des opérations, vous savez, nous avons aujourd'hui le contrôle complet de l'espace aérien iranien. Ça fait déjà 2 jours que nous avons le contrôle complet de l'espace aérien iranien. Et donc ça nous permet d'opérer plus rapidement et plus facilement. Peut-être que cela va réduire la longueur, disons, des opérations et nous permettre de terminer plus tôt.
Une dernière chose, est-ce qu'une telle opération, à votre avis, ressoude la population israélienne derrière Benjamin Netanyahou ou pas ?
C'est une question politique, vous savez, une telle opération ressoude la population israélienne, point. Pas derrière Netanyahou, parce que ça fait 40 ans que les Iraniens disent qu'ils veulent nous détruire, ça fait 20 ans qu'ils développent la capacité de le faire, et pour les Israéliens, pour tous les Israéliens. C'est une menace réelle, c'est une menace existentielle.
Qui était vraiment imminente.
Qui était vraiment imminente, oui. C'était clair pour tout Israélien qu'il fallait s'en débarrasser. Et donc, bien que le prix est énorme aujourd'hui, nous pensons, nous ressentons tous qu'il était temps de le faire.
Donc le prix est énorme et le prix à payer, c'est ça que vous dites en
fait. Exactement.
Monsieur l'ambassadeur, 5 stands d'industriels israéliens exposant des armes offensives au Salon du Bourget en ce moment. 5 stands ont été interdits, 5 sur 9, puisque ce sont des armes offensives et que ça n'est pas ce qui est censé être montré au Bourget. Est-ce que ça vous scandalise ou en effet, il y a 5 exposants qui n'ont pas joué le jeu, en fait ?
Non, c'est, sur 9, c'est, la définition de ne pas jouer le jeu, c'est une définition qui n'est pas précise, parce qu'on ne demande pas aux autres pays qui sont sur place de ne pas présenter d'armes offensives. En fin de compte, le Bourget est un salon d'armes. Un salon militaire. Alors, ce n'est pas un salon de jouets. Donc, tous les pays ont le droit de présenter des armes offensives, à part Israël. Et je dirais plus, vous savez, la plupart de ces armes offensives qui sont présentées au Bourget sont des armes qui sont achetées par les pays européens et qui sont utilisées par les pays européens pour justement se défendre des attaques qui viennent de l'Est.
Et donc polémique hypocrite, c'est ça que j'entends
c'est
ça.
C'est une polémique... une mécompréhension et une polémique dont on devrait se débarrasser facilement.
Joshua Zarka, vous êtes l'ambassadeur d'Israël en France. Merci beaucoup.
Merci à vous.
D'avoir été avec nous. Et nous allons accueillir Frédéric Ancel dans un tout petit instant. Juste avant, je voudrais qu'on entende une voix d'Iran. Voici un jeune homme qui vit à l'ouest du pays, donc moins touché par les bombardements que Téhéran. Mais tout de même, il habite la ville de Kermanshah. Voici la note vocale qu'il a envoyée à Franck Madvon.
Cette peur, elle s'envile partout et te change, elle te rend méfiant, tendu. Ce n'est pas juste les bombes, c'est l'après. Est-ce qu'on va perdre Internet? Est-ce que ça va recommencer? Est-ce qu'on aura encore de l'essence dans quelques jours? Est-ce qu'un autre pays va s'en mêler? On est tous là et il se paraît que ça se calme, mais en même temps, on se prépare, chacun dans sa tête, chacun de sa manière. Ce n'est pas l'Iran qui a déclenché cette escalade. Israël a lancé une attaque sans provocation directe sur le base d'une hypothèse, d'une possibilité que l'Iran envisageait peut-être quelque chose. Et c'est bien ça qui est le plus choquant. On peut dire ce qu'on veut sur leurs tensions entre les deux pays dans le passé, mais cette attaque-là, à ce moment-là, sans preuve tangible, sans alerte immédiate, et elle repose entièrement sur une logique préventive, agressive, unilatérale. Et c'est nous qui en payons le prix. On n'a pas vraiment la pression d'être en guerre contre un seul pays. Oui, ce sont les bombes d'Israël qui tombent, mais la présence de l'Amérique est partout. Dans les silences, dans les décisions, dans cette diplomatie qui nous protège jamais. Leur influence est là. Et ça façonne tout, les réactions, les discours, même ce qu'on dit dans les médias. Et pour moi, ce n'est pas juste une histoire de drapeau, c'est cette pression constante de l'extérieur comme de l'intérieur. On est prise entre des puissances, des intérêts, des logiques qui ne sont pas les nôtres. Et nous, au milieu, on essaye juste de vivre, de garder un peu de normalité alors que tout semble glisser entre nos doigts. Et c'est ça, la vie ici, on traverse l'insupportable et pourtant on continue.
Bonsoir Frédéric Ancel.
Bonsoir.
Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes docteur en géopolitique, vous êtes aussi enseignant à Sciences Po. Est-ce que les Israéliens se trompent totalement sur une potentielle explosion du régime ?
Ah, moi je pense que oui, si c'est leur objectif. Le fameux regime change, ça marche rarement quand même. Hein. Ça c'est le premier point. Le deuxième point, la population iranienne est très majoritairement à la fois patriote et détestatrice du régime. Mais dans les deux, qu'est-ce qui va fonctionner le plus ? C'est-à-dire que la libération depuis les avions ou les fourgons de l'extérieur, ça marche quand même rarement. Et moi, je demande à voir comment les Iraniens vont réagir vis-à-vis de leur régime, dont je répète qu'il est très manifestement détesté, objectivement oppressif, face à l'intervention israélienne. Donc je pense que si la variable de prise de décision du gouvernement israélien est majoritairement, voire exclusivement politique, alors je pense que c'est une très grave erreur. Si en revanche, la variable principale de prise de décision de cette offensive de la part d'Israël est militaire, alors là, on peut en discuter et ça peut se justifier.
On va venir aux militaires, évidemment. Juste encore un dernier point là-dessus. Est-ce qu'on peut même imaginer l'inverse? C'est-à-dire, au nom du patriotisme, au nom du nationalisme, c'est ce qu'on disait à l'instant, des Iraniens qui se resserrent vers leur gouvernement, y compris en le détestant, mais qui, dans cet instant, se retournent vers lui?
Alors, je pense que ça sera vrai chez les conservateurs. C'est-à-dire qu'il y a une polarisation, me semble-t-il, dans la société iranienne ces dernières années, entre une partie, quand même encore relativement importante du pays, très conservatrice, qui, on va dire, tolère ou supporte ce régime en dépit de son impéritie et son caractère à la fois ubesque et répressif, et de l'autre côté, une jeunesse très majoritairement hostile. Mais dans un cas comme dans l'autre, je doute qu'Israël réussisse à pousser les Iraniens à faire chuter ce régime.
Surtout s'il n'y a pas de plan B, par ailleurs.
Surtout s'il n'y a pas de plan B. Et puis, j'ajoute un dernier point qu'on connaît tous ici, puisque je crois que tous les humanistes que nous sommes ont soutenu Femmes, Vie, Liberté, pardon, mais même cela, ça n'a pas suffi à faire chuter le régime. L'exaspération socio-économique qu'on voit à l'œuvre ces deux, trois dernières décennies, avec notamment ces grandes manifestations de 2009-2019, ont fait vaciller le régime, mais ne l'ont pas fait chuter. Autrement dit, je ne crois pas que ce soit des bombes israéliennes qui parviennent à ce résultat.
Est-ce que les Américains, selon vous, subissent intégralement la décision israélienne et sont en train de se raccrocher au wagon? Ce qu'on voit là au G7, par exemple, c'est Trump qui essaye de se raccrocher au wagon, quoi.
Alors, intégralement, non, mais Trump a suffisamment, d'abord, peu d'ego, un ego surdimensionné. Ensuite, des discours de Matamor qu'on a déjà entendu sur l'Ukraine, puisqu'il devait y avoir, je vous rappelle, un cessez-le-feu en 24 heures après sa prise de fonction, et la guerre fait plus rage que jamais. Au moment des négociations avec les Iraniens ces derniers jours, je pense, c'est une hypothèse, je pense que Trump a fini par se rendre compte que les Iraniens voulaient gagner du temps. Comme ils le font d'ailleurs depuis que l'AIEA, l'Agence internationale de l'énergie atomique, l'avait dit à Vienne en 2002. Netanyahou n'est pas au pouvoir en Israël, en 2002 déjà. Bon. Et fort de ce constat, il a dû vraisemblablement lâcher la bride à Netanyahou, parce que ce qui est certain, ça je peux vous l'affirmer en géopolitologue, c'est qu'une telle, une opération militaire d'une telle ampleur ne peut pas, quel que soit le Premier ministre israélien, se faire sans le feu vert d'un président américain, quel que soit ce président américain.
Feu vert, oui, mais est-ce que le feu vert, il dit est-ce qu'on peut y aller, est-ce qu'on a votre feu vert, ou est-ce que, au fond, on imagine plutôt Netanyahou dire on y va, on est d'accord qu'on a votre feu vert. Ça ne dit pas pareil. Hein.
Oui, ça ne dit pas pareil. Et le problème de Trump, c'est
qu'on a lui ne peut pas donner de feu rouge, de toute façon.
Non, c'est ça. Non, ça c'est vrai. Mais on a affaire à un enfant roi, en matière en tout cas d'affaires internationales, pour ce qui ne concerne pas strictement l'économie. Hein, là, on l'avait dit, le nord de sa boussole, c'est le mercantilisme absolu. Mais là, ce sont des questions politico-militaires auxquelles d'ailleurs il n'entend rien. Hein. Je parle toujours de M. Trump. Et donc, oui, c'est une hypothèse. Il est possible que Netanyahou ait forcé la main à Trump. Mais enfin, ce qui est sûr, c'est qu'un président américain, en principe, on ne lui force pas très longtemps la main.
L'ambassadeur israélien, tout à l'heure, à l'instant, disait que sur tous les points, et notamment pour aller au plus profond, c'est-à-dire là où l'uranium est enrichi à Fordo, on dit que c'est à des dizaines de mètres au-dessous du sol, ils n'ont pas besoin des Américains. Est-ce que c'est faux? Est-ce que c'est vrai? Est-ce qu'ils ont les capacités militaires à aller aussi loin pour taper l'uranium iranien?
Alors, question fondamentale. Il y a un type de bombe qui est suffisamment pénétrante, en principe, pour aller effectivement détruire ce qui se situerait à plusieurs dizaines de mètres.
Transporté par ailleurs, paraît-il, par des B-52 qui ne sont qu'américains. Donc...
Oui, c'est juste. En revanche, les Israéliens ont déjà des BLU et des GBU, pardon pour ce terme un peu barbare, mais c'est leur dénomination, des bombes qui ont déjà été utilisées, qui sont utilisées et qui ont déjà été livrées aux Israéliens. Maintenant, le problème est le suivant. Est-ce qu'on est certain qu'avec les superbombes américaines, ça fonctionnerait? Et à l'inverse, est-ce qu'on est certain que ça ne fonctionnera pas avec, entre guillemets, seulement les bombes massives d'Israël? Moi, je pense que l'objectif militaire d'Israël, en tout cas s'il est cohérent, consiste à gagner du temps, non pas à éradiquer l'intégralité du savoir théorique et technique nucléaire iranien. Ce n'est pas possible. Les formules, elles resteront au fond des ordinateurs et des cerveaux des ingénieurs. Donc, de toute façon, ça ne fait que reculer. Sauf que, d'un point de vue strictement stratégique, ce n'est pas du tout stupide. Ce n'est pas aberrant. Parce que si Israël, ne serait-ce qu'avec des, entre guillemets, bombes massives, mais pas si importantes que cela, pas la super bombe américaine, si les Israéliens réussissaient, au terme de cette campagne, a gagné seulement quelques années, eh bien peut-être que dans cet intervalle, on n'en sait rien, mais peut-être que dans cet intervalle, le régime iranien chutera, alors, sans doute depuis sa propre population. D'une part, et d'autre part, il est tout à fait vraisemblable que les Israéliens, eux, sur le plan militaire, aient renforcé leur capacité défensive anti-balistique, notamment avec du laser. Donc, si vous voulez, c'est pas idiot. Moi, la question que je me pose aujourd'hui, c'est la question du politique, encore une fois. Est-ce que les Israéliens veulent à la fois casser la capacité potentielle nucléaire de l'Iran, ou est-ce qu'ils veulent d'abord, prioritairement, faire chuter ce régime? Si c'est cette seconde hypothèse, je répète que c'est une erreur gravissime. Si ils ne s'en tiennent qu'à l'aspect militaire, que stigmatise aussi les relations, enfin l'Agence internationale énergie atomique. Là, de ce point de vue-là, c'est cohérent.
Si on a entendu Trump donc tout à l'heure au G7 dire les Iraniens n'ont qu'un intérêt, c'est de retourner à la négociation. C'est bien qu'ils ne vont pas négocier sous les bombes, évidemment, mais est-ce que ce que ça dit quand même en creux, c'est attention à ce que vous allez faire, ne vous avisez pas d'aller bombarder une base américaine par exemple, ne vous avisez pas de faire en sorte que ce conflit devienne régional, parce que là je pourrai plus rien pour vous. Est-ce que c'est ça qu'il est en train de dire au G7 en creux, Trump, ou pas?
Oui, complètement. Il dit cela, et il dit aussi quand même quelque chose aux Israéliens. Ne frappez pas suffisamment massivement pour que les Iraniens, perdus pour perdus, et se sentant tellement humiliés, décident de mettre le feu à l'ensemble de la région. Mmh. Pourquoi ? Parce que, je le disais il y a un instant, le nord de la boussole de M. Trump, c'est le mercantilisme absolu. Et dans la région, son prisme prioritaire, c'est de loin l'Arabie Saoudite. Et on l'a vu il y a encore quelques semaines. L'Arabie Saoudite a encore acheté pour 140 milliards de dollars de matériel et de services militaires américains. Donc c'est fondamental pour Trump. Je rappelle que le premier voyage de Trump numéro 1, donc il y a un peu plus de 8 ans de ça, c'était Riyad. Ce qui était quand même pas joué pour un président américain. C'était stupéfiant. Et ce que craint Trump, c'est pas tellement une escalade militaire entre Israël et l'Iran. Très franchement, je pense que ça n'intéresse pas beaucoup. C'est le risque que l'Arabie Saoudite ne soit plus solvable et qu'elle soit frappée en son cœur, c'est-à-dire sur ces installations pétrolières.
On ne l'a pas beaucoup entendu, MBS d'ailleurs, ces derniers jours. Il aurait pu intervenir là, dans les 24 dernières heures. On ne l'a pas entendu, mais on n'a pas entendu de voisins non plus. Qu'est-ce que ça dit, le fait que les pays arabes, pour l'instant, attendent et voient ?
Ça dit quelque chose de très simple, c'est que tout le monde est satisfait qu'Israël fasse le sale boulot. Et je le dis avec force et vigueur, parce que le nucléaire iranien, personne n'en veut dans la région, et j'insiste, je vous ai donné quelques références historiques là-dessus, dans le monde entier, personne n'en veut. Pourquoi ? Parce que le traité de non-prolifération de 1968, onusien bien sûr, n'a jamais été transgressé à ce jour. Vous vous rendez compte de ce que ça veut dire ? Et c'est certainement l'une des plus grandes, sinon la plus grande réussite de l'ONU depuis sa création en 1945. Si l'Iran, signataire de cet accord, de ce traité, devait obtenir la bombe en dépit des menaces et des sanctions internationales, ce serait la voie ouverte, manifestement, pas seulement dans la région, mais aussi dans la région, à une prolifération dont personne ne veut. C'est la raison pour laquelle non seulement les pays arabes sont extrêmement tièdes dans leur réaction, mais écoutez, franchement, Moscou et Pékin ne sont pas extrêmement vifs, c'est le moins qu'on puisse dire.
Par ailleurs, on entendait encore une fois l'ambassadeur israélien parler d'un petit nombre de semaines, on ne sait pas très bien ce que ça veut dire, un petit nombre de semaines, mais ce qu'on sait, c'est que l'Iran n'a plus de proxy, et que le stock, on va dire comme ça, le stock de missiles balistiques, il est pas, c'est pas un puissant fond. Honnêtement, au moment où on se parle, Frédéric Ancel, combien de temps peut tenir l'Iran ? Combien de temps peut riposter l'Iran ?
À ce rythme-là, c'est-à-dire 150, 200, 250 000 par jour, une dizaine de jours. C'est extrêmement faible. Alors l'Iran peut décider de limiter le rythme pour tenir encore un mois, peut-être deux mois, mais un missile, vous l'utilisez qu'une seule fois. Un chasseur-bombardier F-35 flambant neuf, avec des pilotes remarquables dans le cockpit, vous les utilisez des dizaines, des centaines de fois. Donc en fait, cette guerre, je vais vous dire, au sens strictement militaire du terme, elle ne peut pas être gagnée par l'Iran. Ce n'est pas possible. En revanche, je répète que si Israël décide d'aller plutôt vers du politique et de s'enliser en quelque sorte dans une guerre qui aurait pour objectif la chute du régime iranien, là pour le coup ça peut être beaucoup plus difficile pour l'État juif.
Est-ce que l'Iran peut enrichir son uranium ailleurs ?
Alors, ça a été évoqué, notamment en Russie, au Pakistan, en Corée du Nord. Alors, rien ne le démontre. De la même manière que beaucoup d'observateurs ont estimé ces derniers jours qu'il y avait une possibilité de soutien depuis le Pakistan et la Chine. J'y crois pas un seul instant. Je vais vous dire, la Chine est une puissance ultra-conservatrice quant à la non-prolifération nucléaire. On le voit bien à chaque fois que M. Poutine hurle à l'apocalypse et se fait tancer par Xi Jinping. Donc je ne crois pas que l'Iran puisse obtenir le moindre soutien sérieux dans les prochaines semaines.
Je me demandais, en vous écoutant et en regardant comment le monde avance ces derniers temps, jusqu'à quel point désormais c'était la force qui avait de toute façon toujours le dernier mot et plus la diplomatie. Donc je me demandais si la diplomatie avait encore un sens, Frédéric Ancel, et je vous pose la question parce qu'on ne peut pas s'empêcher de revenir en arrière et se dire que si l'accord de 2015 n'avait pas été déchiré, aujourd'hui, on ne sait pas ce qui se passerait évidemment en Iran, mais on n'en serait sûrement pas là où nous en sommes aujourd'hui.
Sans doute, et il a été déchiré par qui, je vous le donne en mille, par Donald Trump. Et Donald Trump, qui lui-même s'est enquis de négocier, mais cette fois-ci en bilatéral, seul avec les Iraniens, il y a quelques semaines de cela, alors qu'effectivement, vous avez raison de le rappeler, c'est lui qui avait cassé cet accord en août 2018, donc 3 ans après, après qu'il fut trouvé, et pour discuter à des conditions moins favorables, et en envoyant sur place un promoteur immobilier. Si vous voulez, c'est quand même extraordinaire.
C'est ça la diplomatie aujourd'hui, du coup.
Mais en tout cas, c'est la diplomatie de l'incompétence et de l'impéritie à la tête non pas d'une petite puissance modeste, mais de la première puissance mondiale. Et dans cette impéritie peut effectivement s'engouffrer, pourquoi pas, soit un gouvernement israélien, soit un pouvoir, d'ailleurs, l'Union européenne aussi, pourquoi pas demain le Japon, l'Australie, le Burundi, que sais-je encore. Et ça, c'est un vrai problème. Et juste d'un mot, vous dites, mais en fait, c'est la force qui reprend ou qui prédomine. Alors, oui, vous avez raison, mais pardon. C'est vraiment pas nouveau. Mmh. C'est-à-dire qu'on a assisté à quelques périodes dans l'histoire longue, façon Fernand Braudel, des siècles ou des dizaines de siècles, on a assisté à des phases où la diplomatie reprenait pour l'essentiel ses droits. Je vais vous dire quelque chose, ça a été minoritaire et au fond, c'était des parenthèses.
Frédéric Ancel, merci beaucoup. Merci de votre passage chez nous. Dans un instant, il y a une question qu'on a laissée en suspens. Y a-t-il un double standard dans la guerre préventive? On verra ça avec Frédéric. C'est lui qui nous le dira. Et puis il y aura la BO du monde quand même de Cyril Sauvageau. Dans un instant, il a écouté du hard rock mongol. Je peux vous dire que c'est assez spécial. Allez, vous êtes dans le 18-20 de France Inter dans Un jour dans le monde, comme chaque soir, qui fait un détour par la playlist de France Inter et le choix de Djoubaka. Voici Sayagre, Shell of Ban. A tout de suite. Sayagre, Shell of Ban sur France Inter et dans Un jour dans le monde. Le monde à 18h50, c'est Frédéric Saïs.
How dare you?
World has changed.
Fabienne Saint-Hess. Le 18-20.
Et dans cette guerre, Frédéric, entre Israël et l'Iran, les Occidentaux font face aux reproches du deux poids, deux mesures. Vous nous dites pourquoi?
Quelques heures après le début des frappes israéliennes en Iran, en fin de semaine dernière, les premiers communiqués des chancelleries occidentales ont donné le ton. Londres, Paris et Berlin ont soutenu, je cite, le droit d'Israël à se défendre. Donald Trump, lui, a confirmé avoir été mis au courant à l'avance de ces bombardements. Et si, bien sûr, les Occidentaux ont tous appelé au calme, à la désescalade, aucun n'a désavouer les frappes israéliennes. Une manière de valider, au moins en creux, cette offensive unilatérale qu'Israël a qualifiée, je cite, de guerre préventive.
Et c'est bien cette notion qui pose question.
Oui, si le contexte de cette guerre préventive revendiquée par Israël est assez clair, la crainte que Téhéran se dote de l'arme nucléaire, crainte appuyée sur le récent rapport de l'Agence internationale de l'énergie atomique, l'AIEA, qui identifie des capacités d'enrichissement de l'uranium toujours croissantes en Iran. Autre élément de contexte, vous le savez, les Iraniens étaient engagés dans une négociation directe avec les États-Unis sur cette question de l'atome, négociation dont le sixième round aurait dû avoir lieu hier. Après les attaques israéliennes, Téhéran a annulé sa participation à terme. Le risque, c'est effectivement de banaliser ce concept de guerre préventive, d'en faire une notion passe-partout qui serve de justification à tout usage de la force, à tout État qui voudrait attaquer un ennemi au motif d'une menace.
Et donc vous dites, attention danger.
Oui, la Russie a déjà pris de l'avance dans cette rhétorique. Vladimir Poutine n'a cessé de justifier l'invasion de l'Ukraine par la menace représentée selon lui par l'OTAN, par l'élargissement de l'Alliance Atlantique aux pays d'Europe de l'Est, aux frontières russes. Bien sûr, l'argument est spécieux et les enjeux ne sont pas les mêmes, mais décentrons le regard, examinons la perception dans un monde où les pays émergents accusent de plus en plus ouvertement l'Occident d'adapter les règles à ses intérêts et le droit à ses objectifs. Il apparaît périlleux de s'aligner sans réserve sur ce concept de guerre préventive, concept qui a d'ailleurs mauvaise presse depuis les mensonges de George Bush pour envahir l'Irak en 2003. Ce danger, Emmanuel Macron l'a évoqué d'ailleurs il y a un mois au cours d'une tournée en Asie. Il a mis en garde contre le deux poids deux mesures. Si les Occidentaux abandonnent Gaza et laissent faire Israël, disait le président français, alors ces mêmes Occidentaux risquent de perdre toute crédibilité à l'égard du reste du monde.
Et risquent aussi d'accroître le scepticisme à l'égard de l'Occident.
Oui, autre exemple, Fabienne, les Européens exigent de la Russie un cessez-le-feu avant toute discussion sur l'Ukraine. On ne négocie pas sous les bombes, c'est l'argument répété par les capitales européennes. Mais concernant le Moyen-Orient, les mêmes capitales demandent à l'Iran de revenir immédiatement à la table des négociations sur le nucléaire, alors même que les bombardements sont toujours en cours. Y aurait-il une règle à géométrie variable ? Y aurait-il un droit à ouvrir le feu sur l'ennemi par prévention au-delà des principes clés du droit international et du multilatéralisme? Évidemment, il n'est pas question d'établir une équivalence entre la démocratie israélienne, même traversée par des poussées autoritaires, et la dictature iranienne, même fissurée par des élans de liberté populaire. Pas d'équivalence donc, mais précisément, c'est le propre des principes, c'est qu'ils ne varient pas à la tête du client.
Frédéric Saïs, merci beaucoup. Le lundi, Cyril Sauvageau écoute la musique Que fait le monde en tournant, c'est la BO du Monde.
France Inter. 18-20.
Et vous nous embarquez, Cyril, pour le Hellfest, le rendez-vous incontournable des fans de métal. L'édition 2025 aura lieu cette fin de semaine à Clisson, en Loire-Atlantique, comme d'habitude. Et parmi les têtes d'affiche cette année, un groupe étonnant qui vient de Mongolie.
Le public du Hellfest a déjà fait connaissance avec ce groupe mongol baptisé The Who. En deux lettres, H-U. Ils s'étaient produits à Clisson il y a 2 ans, où ils avaient déjà fait forte impression. Mais cette fois, c'est un peu la consécration. Les 8 musiciens originaires d'Oulan-Bator sont annoncés vendredi sur la plus grande scène du festival pour un concert très attendu. Leur style, c'est un mélange singulier de métal et de musique traditionnelle. Et oui, ils utilisent notamment un instrument à cordes baptisé Morinkur. C'est une sorte de grand violon à tête de cheval. C'est très impressionnant sur scène. Ils pratiquent aussi le chant de gorge selon la tradition des nomades des steppes mongoles. Des sonorités qui se marient étonnamment bien avec les guitares du métal. Les fans du genre sont conquis. Après 10 ans d'existence, The Who totalise des millions d'écoutes sur les plateformes et multiplie les tournées à l'international. L'UNESCO les a même nommés artistes pour la paix en 2022.
Oh,
retrouve une voix de guimbarde, vous me faites sortir du studio ou pas, Cyril? Parce qu'au-delà du côté exotique de la chose, tout ça participe d'un phénomène plus large dans l'univers du métal.
Eh oui, on pourrait croire que cette musique est plutôt fermée aux influences extérieures, avec son esthétique et ses codes musicaux très marqués, mais de fait, le métal se prête aux fusions les plus inattendues. Les premiers à en faire la démonstration, ce sont les Brésiliens de Sepultura dans les années 90, lorsqu'ils intègrent les percussions d'une batucada. Cet acte fondateur va donner des idées à toutes sortes de groupes à travers le monde. Désormais, plus besoin de venir d'Europe du Nord ou du monde anglo-saxon pour être crédible quand on joue du métal extrême. L'affirmation de soi, de ses origines, de son combat face à des régimes politiques parfois hostiles au métal, va faire évoluer le genre et lui ouvrir de nouvelles perspectives. On voit bientôt apparaître des artistes métal venus de partout et trimballant avec eux leurs propres traditions, que ce soit les Israéliens d'Orphanland avec leur sonorité du Moyen-Orient, ou plus récemment ce groupe indien Bloodywood.
Cette nouvelle approche, Cyril, fait des émules jusque dans le bastion du métal le plus extrême, la Scandinavie.
Et là aussi, certains partent en quête de leurs racines musicales et culturelles. En Norvège, au Danemark, ça peut remonter jusqu'à l'époque des Vikings. Le groupe danois Heilung fait partie de ce courant. Eux ont carrément supprimé les guitares. Il ne reste que les climats sombres et angoissants, la dimension théâtrale du métal. Leurs concerts, ce sont comme des cérémonies païennes où les musiciens tapent sur des os et des tambours et chantent dans des langues ancestrales d'Europe du Nord. Autant dire que leur concert vendredi au Hellfest méritera aussi un coup d'œil.
On dirait du Björk, pareil, vous me tapez, vous sortez du studio ou pas?
Mais complètement, on est dans des traditions assez voisines. Voilà, effectivement, le métal, ça peut aller très loin.
Merci beaucoup, Cyril Sauvageau. Vous pourrez revenir, ce sera lundi prochain, le 18-20, la suite en attendant. C'est le journal de 19h avec Hélène Philly. Et juste après, le téléphone sonne. Bonsoir Philippe Lefebure.
Bonsoir à tous.
Rédacteur en chef du 18-20. Philippe, ce soir alors, c'est 64 ans sinon rien?
Oui, on parle bien de la réforme des retraites, fin théorique des négociations demain. Jules, par mail, 64 ans, pourquoi cet âge limite? J'ai peur de ne pas y arriver. Ce matin, avec des collègues, nous avons porté et déplacé à main nue dans des escaliers une pompe à chaleur de près de 350 kg, 4 ballons d'eau de 200 kg, 41 ans que je travaille ainsi tous les jours. François, au temps de l'IA, c'est un jeu sans fin. L'équilibre cotisant-retraité continue de se dégrader.
Eh bien, vous êtes chaud. Merci beaucoup. C'est parfait. 01 45 24 7000 pour dialoguer avec nous. Même chemin par WhatsApp.